Bienvenue sur les ondes de Radio Superpouvoir, l'émission dédiée à l'univers des comics et des super-héros. Au cours des 45 prochaines minutes, nous décrypterons l'actu et les sorties comics qui nous ont tapé dans l'œil avant de s'attaquer au dossier du jour. Et cette partie sera suivie d'une petite liste de recommandations. Alors moi c'est Guillaume et je serai votre hôte pour ces prochaines minutes. Et je retrouve mon co-animateur de toujours pour cette nouvelle saison de Radio Superpouvoir, l'homme le plus grognon du milieu comics français, Cédric Luthor.
Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous les auditeurs, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en podcast sur superpouvoir.com.
Alors, comme vous l'avez remarqué, on va un peu changer la formule, donc maintenant l'émission sera découpée toujours avec les actus et les sorties. On enchaînera ensuite avec le dossier du jour, et la partie critique va donc sauter, se retrouver à la fin dans la liste des recommandations, donc des recos qui seront liés au dossier, bien évidemment. Donc aujourd'hui, comme on va vous parler de Deadpool, on vous fera des recommandations sur les comics Deadpool qui nous ont plu, si tant est que nous... Oui, voilà, ou pas. Alors, pour cette première émission de la saison, on va donc parler de l'anti-héros le plus populaire de chez Marvel à l'heure actuelle, Deadpool, incarné par Ryan Reynolds au cinéma.
Oui, et Deadpool, dont le film, hein, Deadpool et Wolverine, vient de dépasser, je crois, le 1,5 milliard de recettes à travers le monde. C'est un des plus gros démarrages, si ce n'est le plus gros démarrage de films R-rated, hein, c'est-à-dire destiné à un public un petit peu plus adulte, voilà. Et c'est un désespoir, parce que bon, je vous le dis tout de suite, moi j'ai pas aimé le film, hein, mais ça rentre pas en ligne de compte. Mais il faut savoir que Deadpool et Wolverine, c'est un véritable succès. Donc, eh ben on vous en parle, voilà.
Oui, d'ailleurs, moi j'avais bien aimé le premier Deadpool, le deuxième un peu moyen, et en fait je comprends pas du tout qui marche autant le nouveau Deadpool. Enfin, pourquoi d'un coup, est-ce que... Je sais pas, est-ce que Hugh Jackman serait à l'origine de ce succès? Franchement,
oui,
je sais pas.
C'est du fanservice de base, et ça avait déjà marché sur Spider-Man No Way Home. Donc, c'est pas étonnant que ça fonctionne encore. On met des acteurs oubliés, des personnages que tout le monde détestait il y a 20 ans et qui maintenant sont devenus hype. Donc, voilà, c'est la jurisprudence No Way Home. Mais bon, on va revenir peut-être à nos actus, du coup.
Ouais, parce que bon, les films Spider-Man, encore des films qui resteront dans les annales du cinéma et que citeront de nombreux réalisateurs dans 50 ans, évidemment. Je lance le jingle et on se retrouve juste après.
Allez, on va commencer par les actus et notre tour des news, hein, avec une révélation qui n'en est plus une. Les comics s'adaptent en permanence aux films. Vous en voulez la preuve? Ben, il suffisait simplement, hein, de regarder les annonces de la San Diego Comic-Con, hein, un des plus grands événements autour des super-héros annuels, où on a malheureusement, hein, plus parlé cinéma que comics. Et on va donc attaquer notre petit tour des news comics. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais Deadpool, hein, dont on va longuement parler dans cette émission, a eu une fille. Est-ce que tu le savais, Guillaume ?
Non, pas du tout. Il a eu une fille dans les comics, c'est ça ? Parce qu'ils sont pas terribles, les derniers comics Deadpool.
Alors,
hein. D'ailleurs, ça change d'auteur tout le temps.
C'est dans, la série de 2016, par Jerry Duggan, où il a donc eu une fille légitime, hein, qui s'appelle Ellie. Eh bien, c'est cette fille qui va remplacer Deadpool dès octobre dans sa nouvelle série, dès le numéro 7, puisque Deadpool devrait mourir et être donc remplacé par sa fille. On sait très bien que ça durera 2 ou 3 mois, hein, voilà. Mais c'est pour vous dire une des seules informations les plus importantes qu'on ait eues à la San Diego Comic Con chez Marvel. Hein. C'est pour vous dire le niveau. Voilà, alors Marvel va construire une nouvelle fois un event, hein, c'est-à-dire une histoire qui va donner lieu à une série principale qui va s'étaler sur 3 mois et environ une quarantaine de numéros dérivés, hein, autour d'un autre héros adoré des fans, Venom. Hein. Ce sera ce qu'ils appellent la Venom War, où Eddie Brock, hein, le détenteur originel de Venom, va affronter, bah, rien d'autre que lui, son fils. Hein. Donc vraisemblablement, chez Marvel en ce moment, on aime bien les histoires de filiation.
Attends, j'ai vu la preview de Venom War, alors apparemment ils s'affrontent dans un ring de catch, n'importe quoi.
Voilà.
Oh la vache. Les événements de Venom, là, ils nous en font depuis combien, 4 ans maintenant, à chaque fois c'est la même chose. Enfin,
chaque année,
c'est
à
pas
son
possible.
Venom.
Mais c'est du recyclage.
Bah voilà,
ouais, mais c'est du recyclage. Enfin, je comprends pas comment les gens ils peuvent encore acheter ça. C'est la même histoire à chaque fois. Oh là, Carnage, il est de retour. Il est pas content, lui, vouloir casser la gueule à Venom. Venom vouloir casser la gueule à Carnage. Alors, Event, et puis de temps en temps, on met un ou deux symbiotes en plus. Enfin, c'est la même chose à chaque fois. Enfin, ben ça marchait oui. avec Donny Cates, mais bon, au moins, ça n'avait pas été fait depuis je sais pas combien d'années. Mais là, ils le recyclent depuis 4 ou 5 ans.
Il va falloir arrêter de dire que je suis grognon, hein, Guillaume. Hein, parce que là, pour le coup, c'est plutôt toi. Mais
oui, j'ai vu. Je vais arrêter là, peut-être.
Revenons à nos actus. Le Docteur Doom, dont on va parler bientôt, hein, devient quant à lui le nouveau sorcier suprême de la Terre. Il va donc prendre la place du Docteur Strange et il devrait préparer un event avec les 4 Fantastiques. Tiens, il n'y a pas un film, les 4 Fantastiques, qui est annoncé en 2025 ?
Oui, avec un acteur moustachu.
Oui, Pedro Pascal, avec aussi Vanessa Kirby, à voir ce que ça peut donner. Moi, je suis plutôt confiant sur ce film-là. Mais encore une fois, voilà, un film Les 4 Fantastiques va sortir en 2025. Marvel prépare un event autour du Docteur Doom. En 2025, voilà, c'est logique, hein, et donc vraiment, hein, les comics s'inspirent de plus en plus des films.
Côté d'ailleurs, comics, hein, Doom ou Fatalis ?
Alors moi c'est Fatalis, hein, mais les gens connaissent sous le nom de Doom, donc il va falloir y aller malheureusement. Toujours côté comics, mais copié sur les bouquins, on annonce une nouvelle série régulière, X-23. Ah bah tiens, X-23, c'est pas comme si elle apparaissait pas dans le film Deadpool et Wolverine, hein, voilà. Donc, comme elle apparaît à peu près 3 minutes dans le film, bah Marvel va lancer une série de comics sur X-23. La seule annonce chez Marvel que j'ai trouvée et qui ne correspond pas à des films, eh bien, en fait, c'est une nouvelle série, Les Vengeurs de la Côte Ouest. Une série des années 80, hein, qui avait connu beaucoup de numéros et qui nous montrait une frange des Vengeurs, des Avengers, qui était plutôt basé cette fois-ci, donc comme son nom l'indique, sur la côte ouest. Et le casting de cette nouvelle équipe, ce sera Spider-Woman, les deux Iron Man, hein, puisqu'il y aura Iron Man et War Machine, et surtout Ultron, le méchant robot qui fera donc partie de l'équipe et des gentils. À voir ce que ça peut donner. Les auteurs sont totalement inconnus, hein, comme d'habitude, donc on jettera quand même un coup d'œil, mais peut-être plus par nostalgie. C'était un peu tout le tour des actus chez Marvel. Alors du côté de chez DC, ça va quand même être un peu plus innovant, hein, avec le retour de deux monstres sacrés sur une série absolument extraordinaire. Tony Harris et James Robinson qui vont revenir sur Starman, ce qui est vraiment une série qui est sortie fin des années 90 et que je conseille à tout le monde parce que c'est d'une profondeur absolument incroyable. Donc la série s'est arrêtée il y a bien 15 ou 20 ans. Et bien là, les deux auteurs originaux nous ressortent une nouvelle mini-série sur ce personnage-là, sous la bannière Black Label, hein. Et vraiment, moi, c'est peut-être le truc que j'attends le plus de l'année. L'éditeur, hein, de Batman et Superman nous a aussi annoncé une nouvelle ligne de comics, la ligne Absolute, qui va être en gros une modernisation des origines de nos héros pour coller au monde actuel. Alors, vous l'aurez compris, hein, pour moi, c'est exactement la même chose que ce qu'avait fait Marvel il y a 25 ans avec sa ligne Ultimate, c'est-à-dire une version un petit peu plus moderne des héros. À noter, hein, que c'est cette version Ultimate chez Marvel qui avait lancé toute la vague des films. Les films s'étaient beaucoup inspirés de ça. Et ben DC va tenter de faire pareil 25 ans après, voilà. Alors on peut se dire quel est l'intérêt, hein, d'avoir de nouvelles origines de Batman, de nouvelles origines, etc. Effectivement, je sais pas si ça fait grand sens, mais bon, les artistes annoncés, ils font saliver, hein, puisqu'on aura un titre Ultimate Batman par Scott Snyder et Nick Dragotta. Alors Scott Snyder, tout le monde le connaît, puisque c'est un des plus gros scénaristes actuels. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout Nick Dragotta, hein, qui est le dessineur de la série East of West, que je conseille vivement. On aura aussi une Absolute Wonder Woman par Kelly Thompson. Kelly Thompson, qui est une scénariste qui monte et qui vraiment est intéressante. Et puis un Absolute Superman par Jason Aaron et Rafa Sandoval. À voir un petit peu ce que Jason Aaron peut faire maintenant sur l'homme d'acier, et ce sera en octobre.
Et surtout, voir si Jason Aaron ne se casse pas au bout de 5 numéros comme il le fait en ce moment.
Voilà, bah c'est un petit peu, c'est généralement ce qui se passe ici. Sachant que les séries ont des durées de vie d'à peu près 20 numéros, hein, on lance un grand scénariste, un grand dessinateur sur les premiers épisodes pour faire venir les gens, et puis après, on les remplace vite fait. Et pour finir, hein, comme tous les 2 ans et demi, DC va relancer son univers classique, après le All New DC, après le Rebirth DC, après le tout ce que vous voulez DC. eh ben, nous allons entrer cette fois-ci dans la phase DC All-In, hein, avec un remaniement de toutes les équipes artistiques sur tous les comics de DC. Il y aura un numéro spécial qui va tout nous expliquer, et comme d'habitude, l'univers DC va être totalement modifié, d'après les gens, jusqu'à la prochaine ligne, hein, qui aura lieu dans 2 ans. Voilà, t'as des choses à nous dire, toi, Guillaume ?
Oui, déjà, on commence par une nouvelle assez triste qui a eu lieu aujourd'hui. Alors, on enregistre cette émission il y a 2 semaines, donc lorsque vous l'écouterez, c'est le décès d'Alain Delon à 88 ans. La dernière grande icône du cinéma français apparue au cours de la Nouvelle Vague va nous a quittés. Hein. Après son AVC, tous les problèmes qu'il y a eu autour de sa famille, il vient de décéder. Alors apparemment, il est mort paisiblement aux côtés de ses fils et de son chien qu'il adorait. Donc voilà, repose en paix Alain Delon, puis il continuera de vivre à travers ses films, et c'est peut-être ça qui est le plus important, je pense, pour les cinéphiles tels que nous. Tu aimais bien Alain Delon, toi, Cédric ?
Non.
Non, pas du tout. Enfin, non, mais l'acteur, les films, après, non la plus. Personne. Ah non plus. Ok. Bon, je serais le seul à faire un sac tommage. Quand je vous ai dit, c'est le super vilain ultime. C'est
voilà, grand acteur, il a fait des bons films, très bien. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas sorti un film. Bon.
Oui, en même temps, c'était peut-être mieux plutôt que de se ridiculiser comme d'autres l'ont fait.
Oui, enfin, ces films des années 80 sur les policiers.
Ah oui, non, oh, non. Oublions ça, moins d'être fan de Nanar.
C'est quand même quelqu'un qui n'a pas sorti globalement un bon film depuis les années 70. Hein, donc,
non.
Et j'étais pas né, donc ça me passe un peu à côté, j'avoue. Voilà.
Ouais, moi qui ai grandi, j'ai grandi avec ces films des années 60 et 70, donc forcément. Mais bon, c'est vrai qu'on commence à tous vieillir, même si certains d'entre nous, comme moi, restent jeunes, n'est-ce pas ? Bon, on va se passer un peu après cette triste nouvelle, et on va parler d'un nouveau crossover. Alors, c'est un truc pas possible qui a été annoncé cet été, et ça concerne 2 franchises de Ninja. Donc, je pense que Cédric, tu doutes déjà un peu de ce que c'est.
Je vais vous laisser, je reviens dans 5 minutes, hein, et puis...
Ah oui, car c'est un crossover entre les Tortues Ninja et Naruto. Et ça va être publié par IDW sur un format comics. Donc on connaissait déjà les adaptations de super-héros manga, mais là on va carrément avoir un crossover entre des héros de comics et héros de manga. Comme quoi, ça commence à aller très loin. Hein. Est-ce que les éditeurs de comics sont désespérés à ce point ? Je ne sais pas. Bon, ça a l'air pas mal. Au niveau graphique, les couvertures sont de Jorge Jiménez, donc les fans de Batman, de Chief Darsky, je pense qu'ils savent un petit peu qui c'est déjà. Et c'est Henry Prasetia, donc qui s'occupe des pages. Alors lui, si vous lisez les Power Rangers de Kyle Higgins, vous savez qui c'est. C'est plutôt un bon artiste, hein, c'est assez solide, c'est très coloré, c'est dynamique. Franchement, c'est ce qu'il faut pour un crossover comme ça. Et au niveau du scénar, on a Caleb Goldner, donc il a déjà travaillé sur Tortue Ninja Universe et plein d'autres choses. Il a aussi travaillé sur des comics Sonic, il travaille aussi avec la Toho et Crunchyroll sur des couvertures, parce que c'est aussi un dessinateur. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien les deux univers. Donc ça sort en novembre, le premier numéro, j'attends de voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça n'a pas l'air calamiteux, au contraire, donc, peut-être que ce sera bien. Mais on constate quand même que les Tortues Ninja, là, ça devient une grosse machine à crossover. Hein. J'ai l'impression que c'est que des effets d'annonce depuis quelques temps. Tortues Ninja crossover avec ci ou ça. Est-ce que ça va tenir dans la durée ? Pas sûr. Mais bon, en tout cas, ils sont sur ce type de production-là, IDW, donc on va bien voir ce que ça va donner. Et enfin... une annonce sur laquelle je suis tombé un peu par hasard, donc pour les fans de Garcenis, Cédric, je ne sais pas si tu l'as vu passer celui-là, et c'est avec Johnson Burroughs encore, c'est une série qui s'appelle Babs. Alors c'est publié en VO chez Aoi Comics, donc c'est un petit éditeur indépendant, et pour vous faire le topo rapidement, c'est une espèce, c'est une parodie de Red Sonja, et d'univers de Dark Fantasy en général. Donc le numéro 2, il sort le 18 septembre, et franchement, c'est très drôle. Hein. Par exemple, il y a l'héroïne qui est un peu bébête, elle fait un peu tout et n'importe quoi, et dans le numéro 1, elle se confronte avec des orques incels. qui utilise des potions pour faire des petites choses que je ne vous révèle pas. Bon, c'est vraiment très drôle, hein. C'est vraiment en mode, imaginez un peu The Boys, mais dans un univers de Dark Fantasy. En moins outrancier que The Boys, quand même. On serait plus sur, on va dire, du début de run Punisher. Punisher
Ouais,
Marvel Knight.
c'est un
C'est
peu le pro...
rigolo.
c'est un peu le problème de Garth Ennis, c'est que Garth Ennis, en fait, tout le monde le voit comme un scénariste très parodique et qui ose des choses absolument abominables, hein, alors que en fait, Garth Ennis, c'est un très bon scénariste lorsqu'il va dans l'émotion. Et ça, tu as pu le voir dans Hitman, hein, par exemple, que tu as lu.
Oui, les deux tomes. Et franchement, le tome 2, si vous ne l'avez pas encore, prenez-le. Hein. C'est vraiment très bien.
Voilà, et moi je trouve ça un peu dommage. Là, tu me vends pas du rêve. Hein. Garth Ennis qui fait de la caricature, j'ai envie de dire ouais, comme d'hab. Moi j'aimerais bien le voir retourner un petit peu dans l'émotion. Après, non, ça m'intéresse pas. En fait.
Bon, après, là, à l'heure où on parle, il n'y a que le premier numéro qui est sorti et le numéro 2 est sur le point d'arriver en VO. On verra ce
Ouais,
que
à
ça donne
voir.
une fois terminé.
Ça sortira certainement en France parce qu'il y
Ah
a,
oui.
y a un public pour ce genre de choses.
Oui, puis
Je pense que j'ai
le public est
80% de
lisse.
chances de ne pas aimer s'il n'y a pas autre chose que de la parodie, en fait. Voilà.
Ah, pour l'instant, là, les deux premiers numéros, on est vraiment quasiment que dans la parodie. Hein. Il y a, par exemple, il y a une amie de l'héroïne qui utilise un char Tipromain qui passe sur une armée de léprechauns irlandais, tu sais, avec les costumes débiles, là, et qui les fauche et qui les décapite. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais pour la blague, c'est marrant, hein, je dis pas. Après,
Ouais, mais
je paierai pas ça 20 € hein, par
je crois que je suis
exemple.
trop vieux. Bon, t'as des trucs sur Ed Sonia aussi après?
Oui, bah c'est une bonne nouvelle parce que la situation elle s'est débloquée chez Grave Zeppelin. Donc le tome 2 de Red Sonja par Gail Simone et Walter Giovanni, il est enfin sorti. Et en plus de ça, le tome 3 est annoncé pour le 16 octobre et devrait bien sortir le 16 octobre. Et en plus de ça, il y a aussi la mini-série Bélier et Valéria qui est sortie. Tout ça, c'est chez Grave Zeppelin. Et on les attendait depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est une bonne nouvelle.
Alors pour ceux qui savent pas, Gail Simone, c'est un peu la star du moment. C'est une scénariste hein, qui officie depuis les années 2000, hein, je dirais, sur les super-héros. Elle a connu beaucoup de succès d'estime et là, en fait, elle est en train d'exploser puisqu'on lui a proposé donc le relaunch de toute la ligne X-Men. Donc c'est elle qui scénarise le titre X-Men de base. Et elle scénarise aussi Superman en ce moment. Hein. Donc, les X-Men, Superman, là, elle s'occupe de Red Sonja. Voilà, donc ça, c'est quelqu'un qui est en train vraiment d'avoir la notoriété qu'elle mérite en plus, parce que elle a rarement fait de mauvaises choses. Donc, c'est plutôt à suivre.
Et ces Red Sonja sont parmi les meilleures itérations du personnage, donc franchement, allez-y. Hein. Puis moi, vous montrerai à Graf que oui, il y a un public pour ça. Donc, on a
On fait
fini
le
avec
tour des
les
news,
actes.
ça y est, c'est fini?
Ouais, on a fait le tour des news, on va passer aux sorties après le petit jingle. Voilà notre ami l'araignée qui ouvre les sorties. Alors, chez Urban Comics, alors on prend sur la période du 1er septembre au 18 septembre à peu près. On a décidé de vous faire des sorties qui calent à peu près avec la diffusion de l'émission. C'est un peu plus logique. Donc, le 6 septembre, chez Urban, il y a l'intégrale Southern Bastards de Jason Aaron et Jason Latour. Alors, c'est un polar à l'ambiance Dixie, qui est marqué par le cinéma des années 70 comme... Walking Tall avec Joe Don Baker qui était sorti en 73. Pour vous faire le pif, c'est un ancien shérif qui revient chez lui. Il y a des mafieux qui ont pris le contrôle de l'ailleurs. Il va tous leur casser la gueule. C'est un peu ça dans Southern Bastard, sauf qu'il y a un twist à la fin que je vous révèle pas. Et on retrouve aussi une ambiance un peu, je trouve, à la Happé Leonard du romancier Joe Lansdale. Alors, si vous n'avez pas lu les bouquins, franchement, essayez de les lire. C'est franchement pas mal. C'est vraiment du polar sudiste assez cool. Et en plus de ça, il y avait eu une adaptation en série télé qui était très bien. Malheureusement, ça s'est arrêté à la saison 3. Attention, par contre, avec Southern Bastards, c'est très très violent. Et si vous êtes un peu sensible, n'allez surtout pas le lire. Surtout lorsque vous arriverez à la fin du premier volume, du premier chapitre, c'est quand même assez hard. Donc faites quand même attention. Le 11 septembre, chez Panini Comics. Oui, c'est...
Ouais, bah surtout que Southern Bastard, c'est bien, c'est une intégrale, mais il n'y a pas de fin à la série, en fait, hein, parce que les auteurs n'ont jamais terminé, donc
Oui, c'est ça le problème, ouais.
je... Je vois pas l'intérêt de sortir une intégrale sur ce qui existe pas, en fait.
Essayer de relancer l'intérêt pour la série, je sais pas. Bon, toute façon, cela dit, les numéros indépendants à 2, 3, 4, ils sont plus disponibles, donc ça coûte peut-être moins cher de les ressortir en intégrale, c'est même sans doute le cas.
Possiblement.
Donc chez Panini, le 11 septembre, le 4e tome en Marvel Poche d'Ultimate Spider-Man, donc je vous le recommande parce que c'est une bonne porte d'entrée, Ultimate Spider-Man, si vous voulez découvrir les comics. On avait présenté la série dans les deux premières émissions de Radio Super Pouvoir, à l'époque où ça s'appelait que Super Pouvoir. Donc si vous voulez aller réécouter ça, c'est dans la playlist.
Ouais, enfin, Ultimate Spider-Man, c'est vraiment la série qui peut accrocher tout le monde, aussi bien les vieux lecteurs que les nouveaux. Et là, l'idée de les sortir en format poche, là, il y a 4 tomes, donc je pense qu'on doit avoir peut-être les 30 ou 40 premiers épisodes pour 6€ le volume ou 7€ le volume. Ça vaut vraiment le coup. Si vous n'avez pas lu de super-héros, bah, que vous tombez sur notre émission un peu par hasard, que vous n'aimez pas les super-héros, vous avez envie de voir un peu ce que ça donne. Le Ultimate Spider-Man, bah, pour votre petit-neveu, pour... voilà, ou pour votre ami qui aime bien les super-héros, c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée. Mais dis-moi Guillaume, je crois que tu vas nous parler d'un omnibus.
Ah oui, ça te plaît, ça t'aime les omnibus,
bah, ça. Moi, voilà, oui.
Tu peux écraser les doigts de tes élèves avec.
Je peux écraser les doigts de tout le monde avec les omnibus, surtout les miens d'ailleurs, hein, puisque on le rappelle hein, pour les auditeurs. Des gros volumes d'à peu près 1500 pages qui pèsent 4 ou 5 kilos, hein, voilà. Enfin non, j'exagère un peu, mais qui sont très très lourds et difficilement lisibles. Et d'habitude, fragile. C'est moi qui suis fan de ça, et là, c'est Guillaume qui va nous présenter un omnibus, donc j'attends avec impatience ce que tu vas nous dire.
Bah, un omnibus, un 4e volume d'omnibus de Savage Sword of Conan, de Roy Thomas et John Buscema. Donc, à réserver aux fans du perso, bien sûr. Et franchement, ces omnibus de Savage Sword of Conan sont vraiment très très bons.
C'est l'avantage de la série Savage Sword of Conan, c'est que en fait, ce sont des histoires qui ne sont pas liées entre elles. C'est-à-dire que globalement, chaque numéro va présenter une histoire de Conan différente, et ce sera généralement dessiné par de très 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 bons dessinateurs. Il n'y a pas hein, que John Buscema, il y a Ernie Chuan, il y a Tony DeZuniga, tous ces encreurs au départ qui étaient des encreurs qui venaient des Philippines, qui sont en fait d'excellents dessinateurs. Et c'est vrai que là, moi, je vois un 4e volet d'omnibus, c'est vraiment beaucoup. Mais je pense que le côté qui n'est pas feuilletonnant de cette série, plus vraiment, les histoires sont un peu toujours pareilles, hein, on va pas se mentir, mais vraiment, c'est niveau graphique que ça vaut le coup. Donc, c'est très bien hein, qu'on en arrive à un 4e omnibus Savage Sword of Conan. Bon, après, c'est quand même à réserver, je pense, aux fans du personnage.
Oui, parce que il y a de ça. Puis je trouve que la série Savage Sword of Conan, c'est plus facile de naviguer dedans parce que chez Panini, il y a des intégrales Conan, des omnibus de la série régulière, les omnibus de chez Dark Horse, les omnibus King Conan, les Absolute King Conan. Donc Savage Sword of Conan, c'est plus simple à suivre pour vous, même si en plus vous voulez découvrir l'univers et que vous avez un petit budget.
Donc là, vous avez un 4e volume, mais il n'y a rien à lire avant et il n'y aura rien à lire après. Tout est auto-contenu, donc
voilà, c'est plutôt intéressant. Si les auteurs vous plaisent, vous pouvez le prendre et commencer par là. Allez-y, hein, c'est très bon. Ensuite, on passe chez iComics, 18 septembre, le 4e tome des Tortues Ninja Reborn de Sophie Campbell, une autrice que Cédric aime bien, je précise.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est un bon arc, hein, cet arc Reborn, hein, contrairement à ce qui a pu être dit à une certaine époque par une certaine catégorie de lecteurs. Hein. Mais c'est là que ça commence un peu à partir dans tous les sens et qu'on sent qu'il y a une absence quand même de direction qui a été due notamment à pas mal de problèmes de production. Mais bon, ça reste quand même franchement bien et je trouve au-dessus de ce qui peut se faire dans certaines séries de super-héros. Donc si vous avez commencé l'arc, franchement, continuez-le. Cédric, tu as des choses à nous présenter aussi, je crois.
Oh ouais, alors pour ma part, hein, vous savez que les éditeurs commencent à sortir des comics dans un peu tous les formats, hein, notamment les formats poche à prix réduit. On vient de parler d'Ultimate Spider-Man. Là, je voudrais juste vous signaler l'apparition d'incontournables de la BD américaine hein, que vous pourrez, si vous ne les avez pas lus, vous procurer à un prix modique. Il y aura tout d'abord Day Tripper, hein, une fable sur le temps qui passe par les frères brésiliens Ba qui est absolument phénoménale. Vous aurez aussi Sheriff of Babylon, hein, la meilleure histoire du scénariste Tom King, qui raconte ce qui se passe en Irak après la chute de Saddam Hussein. Et puis pour les amateurs de super-héros, Top Ten, hein, la bande dessinée certainement la plus lisible d'Alan Moore, qui raconte les aventures d'un commissariat dans un monde uniquement peuplé de super-héros. C'est vraiment Hill Street Blues rencontre l'univers Marvel, et c'est vraiment très très bien. Donc ces trois titres, hein, Day Tripper, Sheriff of Babylon et Top Ten, vous allez pouvoir les lire, et je vous assure que ça vaut le coup. Pour moins de 10€, allez-y, foncez, quoi. Je retiens aussi, hein, le Batman First Night, hein, qui, à l'instar du dessin animé Batman Caped Crusader, nous plonge dans les années 30 et un Batman vintage. Et si le scénario de Dan Jurgens peut sembler un peu classique, en revanche, les dessins de Mike Perkins sont absolument à tomber par terre. J'ai pas relevé grand-chose d'autre, mais voilà, il y a vraiment des choses très très bien dans les comics, et allez-y, quoi.
Alors moi, je guette ta critique de ce Batman First Night parce qu'il m'intéresse aussi. Et si bon, vous n'êtes pas adepte de lecture, on en reparlera début 2025 quand on a une émission prévue sur les super-héros dans les univers un peu rétro-noirs. Oui. Donc évidemment, ce Batman First Night en fera partie.
Puis on passe au dossier ?
Oui, on passe au dossier. Alors, Cédric, quand je te dis Deadpool, qu'est-ce que ça t'évoque ? Parce que le nom du dossier du jour, c'est Deadpool, pourquoi les comics sont plus drôles que les films ?
Ouais, alors, bah, ça y est, hein, là, je vais tout de suite commencer à faire mon rabat-joie, mais bon, c'est totalement en accord avec le titre du sujet, parce que pour moi, ce qui est intéressant dans Deadpool, bah, c'est pas son côté comique qui est vraiment nul, pour moi. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans Deadpool, c'est qu'à la base, c'est plutôt un personnage sombre, et que c'est ce qui en fait sa force. Malheureusement, hein, Marvel et surtout Ryan Reynolds, hein, ont oublié cet aspect, ce qui fait que clairement, hein, depuis un petit moment, bah, Deadpool, c'est devenu une caricature qui fait des blagues. Bon, si vous avez vu le film, je pense que vous avez compris le niveau des blagues. Alors que, à la base, Deadpool, c'est pas tout à fait ça. Et croyez-moi, hein, ce que je vais vous raconter, accrochez-vous, hein, parce que on va éviscérer tout un tas d'idées reçues sur Deadpool, parce que vraiment, moi, c'est un personnage qui ne m'intéressait absolument pas, qui est devenu intéressant, et puis qui est depuis, allez, on va dire 15 ans, tombé dans une caricature totale. Et on va commencer, hein, à dégommer les idées reçues avec deux questions très simples. Guillaume, si je te demande qui a créé Deadpool, tu me réponds?
Ah bah, Rob Liefeld, évidemment.
Rob Liefeld. Et si je te demande, c'est quoi les caractéristiques principales du personnage de Deadpool ? Qu'est-ce que tu me dis ?
Il a une gueule dégueulasse, c'est pour ça qu'il se cache sous un masque. Il a des katanas, des gros flingues, son costume est rouge. Ses caractéristiques physiques ?
Non, pourquoi il est connu, en fait ? C'est quoi sa particularité ?
Il sait qu'il est dans un comics.
Voilà. Et bah, tout ça, ce qu'il faut savoir... Bah, c'est que c'est arrivé, mais peut-être 20 ans après la création du personnage. Voilà, c'est que le personnage de Deadpool tel qu'il est défini là, bah, c'est pas comme ça qu'il était défini au début. Justement, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que Rob Liefeld, hein, bah, c'est peut-être le créateur de Deadpool, mais il n'a jamais donné à Deadpool ni un visage, ni ses capacités de régénération, ni sa capacité de savoir qu'il est dans un comics. Et en plus... Pire que ça, Rob Liefeld, bah, il a dessiné Deadpool uniquement 4 fois dans les années 90.
Et il s'est barré chez Image Comics après.
Alors, ça reste le créateur, hein, mais je vais tout vous expliquer. Voilà, donc on est en 1990 et il y a une série qui s'appelle Les Nouveaux Mutants. Et la série, elle se vend de plus en plus depuis qu'un jeune dessinateur, hein, Rob Liefeld, est arrivé sur le titre. Et franchement, hein, vous n'imaginez pas... à l'époque, à quel point les dessinateurs comme Rob Liefeld, Todd McFarlane, vraiment boostaient les ventes de comics, c'était vraiment très impressionnant. Et il se trouve que Marvel, qui avait trouvé un peu la poule aux œufs d'or, était prêt à tout faire, hein, pour les garder. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour garder Todd McFarlane ? Ils lui ont proposé une série Spider-Man qu'il scénariserait, dessinerait, voilà.
Et c'est médiocre, hein. Franchement, c'est médiocre. Hein.
Non,
c'est joli, mais...
à l'époque, c'est une des plus grosses ventes de comics.
Ah oui, oui, mais niveau,
de tous
niveau
les temps,
d'histoire.
Donc, ça a marché. Après, ça a vieilli parce que c'est synonyme de 100 ans, mais à l'époque, c'était extraordinaire. Voilà. Eh bien, on va faire la même chose, hein, avec Rob Liefeld. puisqu'on va lui dire, bah écoute, ta série Les Nouveaux Mutants, on en est au numéro 90 et quelques, tu vas la finir jusqu'au numéro 100, et ensuite on va la relancer sous un nouveau nom, et c'est toi qui vas faire les scénarios, les dessins, et qui va être vraiment l'artiste qui va correspondre à cette série.
Et quel est ce nouveau nom?
Eh bien, ce nouveau nom, c'est X-Force. Alors, on a donné donc les clés du camion à Liefeld, sauf que Rob Liefeld, il est peut-être très fort sur les synopsis, mais en revanche, il ne sait pas écrire, Rob Liefeld, c'est un dessinateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui adjoindre un scénariste plutôt renommé, hein, Fabian Nicieza, qui va en fait réaliser les dialogues sur les histoires, c'est-à-dire que Liefeld va faire le synopsis, va dessiner son histoire, et c'est Fabian Nicieza qui va plaquer les dialogues sur les dessins de Liefeld, un peu comme ce que faisait Stan Lee, hein, sur les planches de Jack Kirby ou de Steve Ditko dans les années 60. Et Liefeld, hein, puisqu'il sait que sa série va être relancée, il veut taper très très fort. Et il va créer dans Les Nouveaux Mutants 98, c'est-à-dire trois numéros avant l'arrêt de la série, trois nouveaux personnages qui, selon lui, vont faire date. Alors, le premier, c'est Gideon, un super vilain mutant, hein, qui a été pensé par Rob Liefeld pour être le futur méchant ultime de l'univers Marvel. Tu connais Gideon, Guillaume ?
Non, j'ai aucun souvenir
voilà,
de
bah,
ce
comme
perso.
Tout le monde, hein, c'est-à-dire que celui qui devait être le plus connu a été totalement oublié. Mais dans ce numéro 98, on nous introduit aussi le personnage de Domino, hein, la mercenaire petite amie de câble qui connaîtra quand même plus de succès puisqu'elle va intégrer les X-Men. Et puis on va la voir, hein, je crois, dans le film Deadpool 2. Et puis, ben, pour combattre les héros, il va falloir un personnage jetable, un vilain sans aucune particularité, comme les fils des consorts, hein, savent en créer des dizaines par série. Alors comme souvent, hein, c'est un type de personnage. Il y a un costume, un nom, avec généralement Blood ou Dead ou Death dedans, et puis des gros fusils. Et là, le nom, c'est Deadpool. Et alors, graphiquement, ouais, Deadpool, il se distingue quand même par son aspect physique, qui tranche un peu avec les personnages tout en muscles de l'époque. En effet, hein, vu que l'opposant principal de Deadpool, c'est le personnage principal des Nouveaux Mutants, c'est-à-dire Cable, et que Cable, il est plus carré que n'importe quel super-héros dessiné par Jack Kirby, hein, et puis Cable, il a des muscles à des endroits de l'anatomie humaine, pardon, qui sont même pas censés en contenir. Hein, voilà, c'est vraiment le stéréotype des héros de l'époque. Eh bien, Liefeld va dire, tiens, pour faire un antagoniste à Cable qui est tout en carré, eh bien, je vais faire un personnage un petit peu longiligne qui va être un peu bondissant sur le papier. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. C'est tout ce que va faire Rob Liefeld. Deadpool, hein, va devenir, en fait, l'homme de main qu'on va voir apparaître tous les 3-4 épisodes, juste pour confronter nos héros. On va le revoir dans les pages de X-Force, mais on n'en sait rien du tout. On ne sait pas qui il est, on ne connaît pas ses origines, on ne connaît pas son pouvoir, et on ne connaît pas son identité. Il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, et on ne sait pas qui c'est. Alors, il semble toutefois apprécié des lecteurs, parce que il balance quelques vannes en combattant, voilà. Sauf que, ben, quand on y réfléchit un peu, c'est pas Rob Liefeld qui les écrit, les vannes. C'est Fabian Nicieza, le scénariste. De fait, hein, si on peut pas nier, hein, que Liefeld a véritablement créé le personnage de Deadpool, puisqu'il lui donne son nom et son costume, qui, de fait, n'a pas beaucoup évolué, hein, à travers le temps, donc c'est que c'est un bon design, et ben, sa personnalité, son identité secrète, ses pouvoirs, ben, ils seront amenés par d'autres créateurs que Liefeld. En plus, hein, au bout de 10 numéros, comme tu l'as dit, hein, Liefeld il va quitter Marvel pour former Image Comics. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand Liefeld se barre ? Eh bien, Nicieza, il va reprendre le scénario donc, de la série X-Force, hein, intégralement, et il va donner du corps à ce personnage qui est de plus en plus apprécié, et il va commencer par lui donner une identité. Alors, Fabian Nicieza, il remarque que le design du costume, il ressemble quand même beaucoup à celui du personnage de Deathstroke dans DC Comics. Deathstroke, c'est lui aussi un mercenaire qui a des fusils, des épées, qui est bicolore, etc. Et donc, comme Deathstroke dans l'univers DC Comics, il s'appelle Slade Wilson, eh ben, Nicieza, il va donner l'identité de Wade Wilson à Deadpool. Hein. Et c'est involontairement, hein, pour ma part, je pense, la première allusion méta, hein, chez le personnage, même si elle est pour le coup totalement involontaire. Les dialogues sarcastiques, hein, du personnage de Deadpool plaisent. Et comme c'est souvent le cas à l'époque, ben on offre au personnage une mini-série en 4 parties, signée donc par Fabian Nicieza et Joe Madureira, hein, qui n'est à l'époque qu'un débutant. Et c'est dans cette mini-série hein, que Nicieza va donner à son personnage un lore, hein, c'est-à-dire tout un univers autour duquel il va graviter, puisqu'il introduit non seulement Weasel, hein, son acolyte, hein, qu'on verra dans les premiers films, mais il va nous raconter enfin, presque 2 ans après sa création, les origines du personnage. Donc c'est dans cette mini-série qu'on sait que Wade est défiguré, qu'on voit son visage pour la première fois, et qu'en fait, il a subi des expériences qui ont boosté ses capacités régénératives afin de combattre un cancer. En lui donnant une histoire tragique et en proposant au lecteur le thème d'un criminel en quête de rédemption et de reconnaissance, bah en fait, Nicieza, il transforme totalement Deadpool et en fait non plus un méchant lambda qu'on va utiliser comme ça, mais un véritable anti-héros bah, qui peut pas s'empêcher de parler ou de faire des blagues. Cette idée, hein, elle sera reprise dans une deuxième mini-série signée Mark Waid et Ian Churchill en 94 et qui vont adjoindre hein, à Deadpool un intérêt amoureux qui n'est autre que Sirène, hein, la fille de Hurleur, et membre des X-Men. Comme Deadpool hein, est passé maintenant du côté des héros, bah forcément, il n'a plus aucun intérêt dans X-Force, hein, voilà, puisque c'est devenu quelqu'un, finalement, avec une âme noble. Et il va donc disparaître hein, des écrans radars pendant à peu près 3 ans, ne faisant que quelques apparitions par-ci, par-là. Et il va falloir attendre donc 1997, hein, c'est-à-dire 7 ans après sa création, pour qu'une série régulière Deadpool voit enfin le jour, à la quasi-surprise générale. Hein. Perso, moi, quand j'avais vu à l'époque hein, l'annonce de la nouvelle série Deadpool, je me suis dit, aucun intérêt, un personnage tout pourri, ça va durer 3 numéros. Et d'ailleurs, hein, Marvel y croit pas beaucoup, hein, puisque sur le titre, ils mettent Joe Kelly, le scénariste, qui n'avait à l'époque pas fait grand-chose, et le dessinateur Ed McGuinness. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, Joe Kelly et Ed McGuinness, c'est peut-être un de leurs premiers travaux, mais en fait, ce sont des artistes absolument géniaux. Et en fait, Joe Kelly, hein, pour vous dire, il va connaître un tel succès avec la série qu'on va rapidement le propulser aux commandes de Daredevil et puis des X-Men. Et puis, bah, Ed McGuinness, il a fait la carrière que tout le monde connaît, hein, puisqu'il a même dessiné du Superman. Et c'est vraiment dans cette série Deadpool de 1997 que tout ce qu'on connaît du personnage est introduit. Il y a sa colocataire Blind Alfred, il y a le bar à mercenaires. Et tout ça, c'est d'une profondeur qui est vraiment hyper intéressante. Parce que Joe Kelly, lui, contrairement à Lee Field et peut-être encore plus à Fabian Nicieza, lui, sait caractériser des personnages d'une manière très émotionnelle. Et Deadpool, en fait, ça devient une personne dépressive dont les blagues incessantes qu'on voit tout le temps ne sont en fait qu'un moyen de combattre son mal-être et le fait qu'il ne se sente pas à sa place. Ce qui est un peu le principe de Spider-Man, hein, voilà. Mais finalement, il manque plus qu'une chose hein, pour parachever le personnage, c'est sa faculté à s'adresser au lecteur, ce qui était encore jamais apparu à l'époque. Hein. Ce sera chose faite au numéro 27 de la série, c'est-à-dire 10 ans après la création du personnage. Donc, tout ce qu'on connaît, en fait, de Deadpool, c'est Rob Liefeld qui a créé le personnage et qui a donné les choses, mais c'est surtout, pour ma part, Fabian Nicieza et Joe Kelly qui ont réussi à le développer tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'on le caricature aujourd'hui. Parce que ce côté dépressif existe à peu près plus. Alors, Joe Kelly va partir hein, au bout de 30, d'une grosse trentaine de numéros. Et de fait, hein, on va orienter le personnage vers un aspect plus comique et on va accentuer le côté méta. Parce que c'est ce qui plaît au lecteur, même si, à force, ça va devenir récurrent. Donc, les histoires, elles vont être reprises par Christopher Priest, par Gail Simone, hein, dont on parlait tout à l'heure, par Jimmy Palmiotti, mais la série ne fonctionne plus vraiment. Et elle s'arrête au numéro 69. Je ne sais pas si c'était une blague ou pas, voilà. La série est alors rebaptisée Agent X, mais la mayonnaise ne prend pas, et elle s'arrête au bout de 15 numéros. Fabian Nicieza va revenir en 2004 et va associer Cable avec Deadpool, hein, voilà, pour une très très bonne série, mais très classique de super-héros qui va s'arrêter au numéro 50. Et puis, à partir des années 2010, Deadpool va être usé jusqu'à la corde, et souvent très très mal, hein, par Marvel, qui va multiplier des séries dérivées Deadpool jusqu'à l'overdose. Il va y avoir des Deadpool team-up, des Deadpool corp, des Deadpool je sais pas quoi. Il y aura 3 séries mensuelles Deadpool, on mangera que du Deadpool. Et c'est souvent fait par des scénaristes et des dessinateurs de seconde zone, en manque total d'inspiration, qui n'ont rien d'autre que des blagues pourries à faire, voilà. Aucun ne tiendra compte de cet aspect dépressif, et tous les gens qui passent dessus après vont se consacrer, comme les films, hein, qu'à de la pantalonnade ou des blagues méta. À une exception près, hein, la série de 2016 de Jerry Dugan et Brian Posehn, qui vont revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire un super-héros un peu plus sombre que ce qu'on pense. Et d'ailleurs, hein, cette phase de 2012, bah, c'est toute une phase que moi, je vais te laisser expliquer, Guillaume, parce que moi, je me suis arrêté là, en fait.
Bah oui, ça semblait partir sur de bons auspices, ça semblait, malgré le rôle douteux du personnage dans X-Men Origins Wolverine. Je ne sais pas si tu te souviens de ce navet, Cédric, c'était sorti en 2009.
Oui, non, oui.
Oui, que dire de ce truc, c'est... Déjà, on était censé avoir un Deadpool, sauf que le Deadpool du film ne ressemble pas du tout à celui des comics. Bon, il était déjà incarné par Ryan Reynolds, mais c'était spécial, disons. Alors, malgré tout, il y a plusieurs mini-séries qui vont être lancées à cette époque-là. Je vais essayer de faire un petit peu une sorte de listing un peu rapide. On a déjà Dwayne Serwinski qui s'est occupé du personnage sur la mini-série Deadpool, Il faut sauver le soldat Wilson, et celle Deadpool versus X-Force. Alors Serwinski, je sais pas, il me semble pas qu'il soit si connu que ça. C'est un romancier à la base. À la base, c'est quand même quelqu'un qui écrit des polars. Il s'est fait connaître récemment, son plus gros succès, c'était Revolver. C'était un récit qui suivait une famille de policiers sur plusieurs décennies.
C'est un roman, là, hein, c'est pas un comics.
Oui, voilà, ça, c'est un roman. Oui, j'essaye de préciser qui est l'auteur, quand même, hein, parce que pour bien montrer à quel point c'est différent ce qu'il fait en comics et sur le format roman. Et donc, on y suivait une famille de flics new-yorkais sur trois générations qui essayaient de résoudre le meurtre de l'un des leurs. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez prolifique, il écrit beaucoup, beaucoup de romans, enfin beaucoup, c'est relatif, hein, mais il est quand même très connu pour ça, et il a fait du Deadpool et du Judge Dredd. Alors sur Deadpool, il avait essayé de faire un truc un petit peu plus psychologique, sur il faut sauver le soldat Wilson, alors que Deadpool versus X-Force, bah, on était déjà plus vraiment dans la pantalonnade, même si Cable c'était le personnage principal et pas vraiment Deadpool. Il aurait plus mieux valu appeler le truc X-Force versus Deadpool, ça aurait été plus cohérent.
Serwinski, c'est un scénariste qui, chez Marvel, a eu droit à toutes les séries bourrines du moment, c'est-à-dire Cable, X-Force, Deadpool, etc. Il est vraiment spécialisé là-dessus, dans les comics Marvel, alors que globalement, d'après ce que tu nous dis, c'est plutôt un écrivain de polar.
Oui, voilà, c'est ça qui est bizarre, la dichotomie entre ce qu'il fait en comics et ce qu'il fait en roman. Enfin, ça a absolument mais rien à voir, mais vraiment. Donc, ensuite, on a eu le droit à la série Deadpool Max, donc dans la ligne, enfin la collection Marvel Max, dont on vous a parlé quelques occasions. Alors, ça a été écrit par David Lapham, c'était sorti en 2010. Alors, c'est une histoire un peu particulière parce que c'est le premier comics VO que j'ai acheté. Je lisais des scans avant. Donc, on a un récit qui est centré plus autour de Hydra Bob que de Deadpool. Donc, ça n'a pas été réédité depuis. Alors après, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. C'est un truc max, quoi. Faut aimer. On a eu aussi, et c'est là que c'est important par rapport à ce que disait Cédric, en 2010, c'est là que la série régulière est reprise par Daniel Way. Daniel Way, c'est qui ? C'est l'auteur du jeu vidéo Deadpool et qui a donc scénarisé les histoires du personnage jusqu'à ce que Jerry Duggan le reprenne. Et c'est lui qui a vraiment créé ce côté pantalonnade, enfin de grand n'importe quoi, que aime tant Ryan Reynolds. Et c'est franchement, c'est pas génial.
Pour moi, c'est tout ce que je déteste, en fait.
Franchement, Daniel Way, bon, pour la blague, ça passe sur un ou deux numéros et sur le jeu vidéo, mais le reste, faut se le taper. C'est vraiment beaucoup trop long. Bon, ça a duré quelques années, oui. Notamment jusqu'à à peu près la sortie du premier Deadpool. Et ensuite, ça a été repris donc, par Degan et par Scott Young, qui ont essayé de remettre un peu le personnage dans ses fondamentaux. Et depuis ça, la série Deadpool, c'est un peu... c'est le grand turnover, parce qu'on a plein d'auteurs qui se succèdent. Il n'y a pas de direction qui est cohérente.
Non, parce que...
pas où va la série.
Personne ne sait quoi faire, parce que le personnage, vu qu'il n'est plus défini que par... il sait que c'est un personnage de comics, et il fait des blagues pas drôles.
Oui, voilà. Y a,
derrière, il n'y a plus rien. Donc, c'est un personnage qui a été un peu abandonné... Et c'est vraiment, depuis quelques années, c'est très, très anecdotique.
Ah oui, depuis Scotty Young, il n'y a rien de cohérent qui a été fait. Hein, mais non. Vraiment, vous regardez la liste, on comprend pas où ça va. Ce qui est mieux, c'est qu'on va quand même vous recommander quelques petites lectures autour de Deadpool. Est-ce que tu souhaites commencer, Cédric, pour terminer cette émission ?
Alors moi, vraiment, en dehors de la série régulière de 2016, qui est disponible, je crois, en intégrale chez Panini, pour moi, c'est vers les vieux titres Deadpool que vous devez vous orienter, et notamment le passage de Joe Kelly, comme je l'ai dit sur le titre. Ce passage-là que vous pouvez retrouver dans les intégrales Deadpool consacrées au personnage. Voilà.
Alors, moi, un truc que j'ai relu récemment et que j'ai bien aimé, c'est Deadpool versus Carnage de Cullen Bunn, qui est un affrontement un peu plus psychologique, ça change un peu. Bon, il y a de la blague, mais c'est pas que de la pantalonnade. C'est Carnage et Deadpool qui vont se jauger et qui vont essayer mutuellement de se rendre tarés l'un l'autre. C'est plutôt bien foutu. C'est un côté un peu road trip, c'est plutôt sympa. À côté de ça, si vous aimez les mangas, il y a Deadpool Samurai, avec un caméo de All Might, pour les fans de My Hero Academia. Ça devient difficile de se le procurer, mais c'est plutôt intéressant, même si ça reste encore trop sur le côté pantalonnade. À nouveau, c'est sorti en 2022 chez Panini. Et donc, c'est difficile. Moi, je trouve ça difficile de recommander des comics Deadpool. Alors, si on aime la blague, les blagues méta,
oui,
y a
voilà.
De quoi faire.
Si vous avez aimé les films Deadpool et Wolverine, prenez n'importe quelle série Deadpool, vous allez adorer, mais pas les séries d'avant.
Pas les premières. Ouais, c'est un personnage compliqué, Deadpool.
C'est un personnage compliqué, ouais.
Et bon, on va se quitter là-dessus. Merci Cédric. La semaine prochaine, tu peux nous annoncer le programme ?
Oh, la semaine prochaine, on va continuer un peu ça avec le Grim and Gritty et on va partir sur Dark Knight, Watchmen et puis le lancement de la mode des héros sombres et violents dans les comics.
Voilà, tout un programme. On vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. Pour nous retrouver, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux de superpouvoir.com. En attendant, prenez soin de vous et à dans 2 semaines.
It's what you hearing, listen. X gon' give it to ya. What? Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am light, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfucker never wanted nothing but your life saved. That's on a light day, I'm getting down, down. Like it said freeze. But won't be the one ending up on his knees. Please, if the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way. Mother, first we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. He ain't never gave nothing to me. But every time I turn around, cats got their hands out, wanting something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever the you gon' do. I'm a wolf in sheep's clothing. Only that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Wanna fight me? Fight these tears. I put in work and it's all for the kids.